Bienvenue dans ce nouvel épisode de Portrait d'Assaut, l'émission pour mieux connaître les acteurs et actrices et les élans de coopération qui font vivre notre territoire. Une émission qui est réalisée en partenariat avec le comptoir des Assauts. Et aujourd'hui, nous vous présentons l'association ECO. Cette association porte des projets positifs et innovants qui lient écologie et solidarité. Et nous avons le plaisir pour en parler d'accueillir Marjolaine Baire, fondatrice de l'association.
Bonjour.
Alors Marjolaine, pour commencer, pour introduire cette association, est-ce qu'on peut revenir sur son histoire ? Comment est née l'idée de monter cette association ?
Alors, l'histoire de ECO a commencé il y a 10 ans.
Ah oui.
On a fêté les 10 ans ce lundi 15 décembre, jour pour jour. Mm-hmm. L'idée générale de ECO, c'est de croiser écologie et solidarité. Et ça venait d'un besoin, d'un constat qui manquait des initiatives, des actions concrètes qui avaient une approche globale et qui proposaient des solutions à la fois écologiques et solidaires, parce que c'est des sujets qui sont intimement connectés, interdépendants. Les enjeux d'écologie, de solidarité sont interdépendants. Les crises sociales, sociétales, économiques, environnementales sont liées. Et donc, c'est important d'avoir aussi une réponse adaptée et des solutions, des propositions de solutions sur le terrain qui aient cette approche globale, holistique, systémique, on l'appellera comme on veut. Donc, c'était vraiment ça l'objectif de départ, c'était de connecter ces deux univers qui parfois se côtoient, mais ne vont pas toujours de pair dans les actions terrain.
Oui, on entend souvent parler de ce lien, mais effectivement, des projets qui mêlent les deux, c'est peut-être plus rare. Dans le Briançonnais aussi, c'était quelque chose, un besoin que tu ou vous, on parlera de qui était à l'origine, pouvez observer.
Alors, le projet de ECO, l'association ECO, n'est pas forcément né à Briançon. Alors, c'est vrai qu'en tant que fondatrice et en tant que briançonnaise, j'avais une sensibilité, une connaissance de ce contexte-là. Mais l'association n'est pas née à Briançon et les premiers projets n'ont pas commencé à Briançon. Et ça fait seulement 5 ans qu'on est présent sur le territoire du Briançonnais.
Alors, c'est né où ?
C'est né partout et nulle part. Le tout premier projet écologue était plutôt à l'échelle France. Ça a commencé par un tour de France à vélo de colocation conviviale, écologique et solidaire. Le besoin du projet écologue était de faciliter le développement et la création de colocations qui ont pour objectif de développer des modes de vie résilients. Donc, des personnes qui ne partagent pas juste un loyer et un toit pour des raisons économiques, mais qui ont aussi envie de tisser du lien au sein de la colocation, d'apprendre les uns des autres, de développer des apprentissages, des modes de vie alternatifs au sein de la colocation. Et donc, ça, c'était un besoin à l'échelle nationale, puisqu'il n'y avait aucune structure, aucun projet sur les colocations responsables ou colocations alternatives au moment où j'ai lancé Écoloc. Il y avait des projets, des associations qui traitaient de l'habitat partagé, de l'habitat participatif, notamment le mouvement des Colibris, notamment Habitat Partagé, mais donc uniquement pour des propriétaires. Et il n'y avait aucune structure, aucune organisation qui facilitait, accompagnait, soutenait le développement de colocations, donc pour des personnes qui ne sont pas propriétaires, alors même que le mode de vie en colocation se développe, pas uniquement auprès des jeunes étudiants, ce qui était initialement davantage le cas, mais aussi beaucoup les jeunes actifs ou les familles monoparentales ou aussi des colocations intergénérationnelles. Donc, il y a vraiment un développement de la colocation à l'échelle de la société française. Ça me paraissait important, intéressant d'accompagner aussi ces modes de vie partagés, collectifs, en colocation et alternatifs.
Et donc, tu dis toi, c'est toi qui es à l'origine de ce premier projet d'éco, alors ?
Oui, ce premier, et puis en fait, finalement aussi les suivants, ouais. Puisque l'OTEC et Réfugiés, qui au début s'appelait l'OTEC for Refugees, parce que je l'ai lancé à Lesbos, donc sur une île grecque à la frontière de l'Europe, était aussi à mon initiative. Et l'essaimage à Marseille et Briançon a été également fortement portés et impulsés par moi. Donc, ça reste encore des projets qui sont à l'échelle très entrepreneuriale et qui tiennent beaucoup à une initiative personnelle, mais qui sont aussi très rapidement rejoints par beaucoup de personnes et éco est essentiellement composé de bénévoles et la plupart du temps qui est investi au sein de l'association l'est par des personnes qui le font bénévolement. On a une centaine de bénévoles par an qui s'engagent sur des durées minimum de 1 mois. En moyenne, c'est 4 mois l'engagement à éco. Donc, c'est des durées d'engagement et des volumes d'engagement qui sont très importants. Et ça devient un projet collectif. Mais c'est vrai qu'à l'initiative de ces projets-là, j'impulse souvent la chose.
Tu as impulsé. Mmh. Voilà. Et donc, c'est toi qui as créé ça au départ, donc, cette association. Et tu disais, donc, il y a eu ce premier projet au niveau national. Ensuite, il y a eu Lesbos. Comment ça s'est déroulé la suite jusqu'à aujourd'hui, pendant ces 10 années?
Quand j'ai lancé Écoloc, donc le premier projet sur les colocations conviviales et écologiques et solidaires, j'étais accompagnée par Ticket for Change, qui est une association qui soutient les entrepreneurs sociaux. Et donc, j'ai écrit avec une amie qui a participé au projet. On a rédigé un guide pratique de la colocation écologique et solidaire qui est accessible en ligne gratuitement sur le site de Eco et aussi du mouvement des Colibris qui était notre partenaire dans ce projet. Et suite à ce premier projet, je suis partie en Afrique pendant 2 ans où je dirigeais une association qui fait de la construction terre au Sahel. Donc des projets d'écologie inclusive en Afrique subsaharienne. Et j'étais restée connectée à des amis de Bretagne. Donc voilà, le projet a voyagé, avec qui on a lancé quelques temps plus tard le Low-Tech Lab. Et c'est suite à un email d'une personne allemande en Grèce, il faut arriver à suivre,
oui.
que j'ai débarqué à Lesbos avec l'idée d'expérimenter, de tester l'intérêt des low-tech dans le contexte des camps de réfugiés. J'étais déjà touchée par ce sujet-là et le Briançonnais en 2018 commençait tout juste à être aussi impacté par ce sujet de l'accueil et dans quelle mesure est-ce qu'on est en capacité d'accueillir des personnes en situation d'exil qui passent ou qui restent sur notre territoire. Et bref, je me suis retrouvée dans ces camps de réfugiés. À l'époque, il y avait 10 000 réfugiés à Lesbos et puis très rapidement, il y a eu jusqu'à 25 000 personnes. C'est devenu le hotspot principal de l'Union européenne ces années-là, avec des grosses crises humanitaires, notamment le moment le plus difficile de l'histoire de Eco, ça a été l'incendie du camp de Moria en septembre 2020. Donc Moria était ce grand camp géré par l'armée, où il y avait des milliers de personnes qui vivaient au sein des camps, entre les barbelés, et aussi autour du camp, dans les oliveraies et dans ce qu'on appelait la jungle. Eco a opéré pendant 4 ans à Lesbos, dans un contexte qui était extrêmement complexe, difficile, où il y avait beaucoup de besoins et où la low-tech a vraiment fait ses preuves. Et voilà, donc on a très rapidement essaimé le projet et j'ai ouvert l'antenne de Marseille et de Briançon la même année en 2020, en dupliquant réellement la méthodologie que j'avais pu développer à Lesbos, à la fois d'ateliers, de formation, et puis en ajoutant à Briançon aussi une composante plus accompagnement à l'insertion, qui est nécessaire pour notre territoire et qui n'était pas couverte par d'autres structures par ailleurs. Donc voilà, donc Eco s'est rapidement développé sur 3 antennes géographiques, avec voilà, des volets d'action assez variés, et pourtant des moyens humains qui restent extrêmement limités et basés essentiellement sur l'engagement citoyen et l'engagement d'individus, en fait, de personnes solidaires qui croient en nos actions, qui ont envie de s'engager concrètement pour ces solutions.
Et donc aujourd'hui, il y a ces 3 antennes.
L'antenne de Lesbos, on l'a clôturée en fin 2021.
D'accord.
Il y a eu énormément de péripéties, de rebondissements, de crises, que ce soit à Lesbos, à Briançon, à Marseille. Voilà, c'est un contexte d'opération qui est difficile, que ce soit des violences fascistes notamment, qui ont été assez importantes à Lesbos, qui nous ont touchés directement, que ce soit du coup l'incendie du camp de Moria qui a conduit l'Union européenne à pousser cette fermeture des camps, qui était un vrai goulot d'étranglement finalement. finalement, où les personnes attendaient de plus en plus longtemps l'instruction de leur demande d'asile. Et donc, les personnes exilées ont pu finalement rejoindre le continent, ce qui a complètement désengorgé l'île de Lesbos. Il reste encore un reliquat du low-tech makerspace, donc de ce lieu qu'on a développé à Lesbos au cours de ces années, et des personnes qui sont encore sur l'île, mais pas du tout à l'ampleur avec laquelle ECHO a pu le porter pendant les 4 années d'action principale, où on était 35 à temps plein dans l'équipe.
D'accord. Et donc aujourd'hui, où est-ce que vous êtes présent ?
Donc aujourd'hui, on est essentiellement basé à Briançon et encore un peu à Marseille, même si à Marseille, il y a un ralentissement et que par contre, à Briançon, il y a un ancrage sur le territoire. Mmh. Ce qui fait sens aussi pour nous de s'ancrer sur un territoire, même si on était heureux de pouvoir développer cette démarche low-tech aussi de manière transversale, de pouvoir comparer aussi des contextes et de tirer beaucoup de leçons et de beaucoup de richesses finalement de ces différentes expériences de développement de low-tech et réfugiés sur ces différents contextes. Mais il y avait aussi beaucoup de besoins communs sur ces trois antennes, oui. Et notamment, par exemple, la réparation de vélos pour faciliter la mobilité ou la réparation de téléphone, ce sont des besoins qui sont les mêmes à Lesbos, à Marseille ou à Briançon.
Oui, et peu importe le profil, mais on va y revenir justement. Peut-être avant de parler de vos projets, il y a eu plein de projets imbriqués, on va démêler tout ça ensemble. Première question, on va revenir sur les low-tech. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, les low-tech, c'est un mot un peu compliqué pour finalement parler de quelque chose très simple. Les low-tech, par opposition aux high-tech, ce sont les technologies basses, les technologies sobres, qui répondent à des objectifs clairs de besoins, de besoins essentiels. Donc, on va parler d'accès à l'eau, à l'énergie, la question d'habitat, de la mobilité, donc vraiment des besoins de base fondamentaux. Le deuxième critère pour lequel on va parler de low-tech, c'est des systèmes techniques, des technologies qui sont accessibles, donc accessibles au plus grand nombre, à toutes et à tous, parce qu'on peut les réparer, les fabriquer soi-même, ou financièrement aussi. On peut facilement y accéder, quels que soient ses moyens et ses ressources financières. Et puis, le troisième critère qui définit la low-tech et pour lequel on va qualifier une technologie de low-tech, c'est sa durabilité. Et là aussi, on est dans une approche assez globale. Dans la durabilité, on parle à la fois de l'impact carbone, le fait d'utiliser des matériaux qui sont locaux, issus du réemploi, biosourcés, avec des systèmes techniques à la fin qui vont être peu énergivores, peu polluants, etc.
Est-ce que tu as des exemples ?
Oui, alors j'en ai même emmené avec moi. Donc là, par exemple, je vous ai apporté une banane qui est ce qu'on appelle surcyclée. En anglais, on dit plutôt upcyclée. En gros, c'est du recyclage, mais pas... Dans le recyclage, il y a différents types de recyclage. On peut recycler, par exemple, une bouteille en la cassant et il faudra la refondre à très haute température pour refabriquer une bouteille en verre. Mais dans le surcyclage, on va amener de la valeur à un matériau qui a moins de valeur que ce qu'on va fabriquer. Donc, par exemple, cette banane a été fabriquée avec une vieille bouée en plastique percée.
D'où la poignée. Il y a une poignée sur le dessus.
Et d'où la texture imperméable, ce qui est très intéressant quand on peut, du coup, y ranger des objets de valeur, un téléphone, des papiers qui sont importants. Mais on fabrique aussi des bananes avec des bâches de tente, avec vraiment tout type de matériaux extrêmement variés. La créativité ne manque pas dans la low-tech et à ECHO. Et donc ça, c'est une banane qui est faite lors des ateliers de couture hebdomadaires, par exemple. Et qui permet notamment aux personnes, notamment en situation d'exil, de pouvoir garder sur elles leurs biens qui sont précieux et pour lesquels c'est important de les avoir sur soi. Un autre exemple de ce qu'on peut faire à l'atelier couture, c'est cette serviette hygiénique. Alors, c'est quelque chose qui peut être parfois assez tabou, mais en fait, c'est aussi un objet du quotidien pour 50% de la population et auquel on ne pense pas toujours, mais qui est très important aussi dans des situations de migration. Celle-ci a été fabriquée avec des bouts de serviettes de bain et de tissu. C'est quelque chose d'assez simple à faire et qui répond là aussi à un besoin important. Un autre exemple de l'atelier couture. Ici, on a un tawashi. Alors, un tawashi, c'est un mot japonais pour parler d'une petite éponge qu'on fabrique avec des matériaux de réemploi, donc des matériaux qui sont amenés à être jetés. Donc, ça peut être un vieux jogging, une vieille paire de chaussettes trouées. Et plutôt que d'acheter des éponges jetables jaunes en mousse qui vont finalement agrandir nos poubelles et être faits avec des matériaux non biosourcés et polluants, en fait, tout simplement, et non renouvelable, on a là du coup une éponge qui peut durer plus longtemps, faite à partir de vieux tissus. J'ai aussi amené avec moi ce petit bout de mousse. Cette mousse, elle est issue d'un gilet de sauvetage parce que à Lesbos, on a fait se rencontrer du coup cette ressource très disponible de gilets de sauvetage qui était disponible avec le besoin d'isoler les tentes. Et donc, on a pendant plusieurs hivers amélioré des prototypes à partir de ces mousses qu'on extrait des gilets de sauvetage pour isoler les tentes, enfin des matelas de sol pour isoler les tentes du froid. C'était un énorme besoin et on a fabriqué des centaines et des centaines de matelas de sol grâce à ce matériau disponible localement. Un autre exemple, c'est cette petite boîte fabriquée à partir de bouteilles plastiques. On fait plein de choses avec les bouteilles plastiques, du fil pour étendre son linge, pour réparer des meubles. Des cosmétiques maison fabriqués lors des ateliers avec des plantes qu'on allait cueillir dans la montagne. Ou là aussi, une lampe qui sert à la fois de lampe et aussi de batterie externe de recharge de téléphone portable.
Ah oui.
On réutilise des composants d'ordinateurs défectueux qu'on teste et dont on détourne l'usage finalement pour fabriquer ces objets très utiles lorsqu'on a peu accès à l'électricité ou qu'on a un téléphone qui tient mal la charge. Ou encore cette ceinture en pneu de vélo. Là aussi, un vieux pneu qui était désuet et dont on a détourné l'usage pour répondre à un nouveau besoin.
Bon, ça donne des idées concrètes, en tout cas. Et donc, tout ça, ce sont des exemples d'objets que vous avez pu réaliser dans vos ateliers, qui font partie de vos actions. Je propose, juste avant qu'on détaille justement vos actions, qu'on fasse une pause musicale, tu proposais, Marjolaine, d'écouter une chanson qui est en espéranto. Alors, je vais te laisser la prononcer, parce que moi, je ne parle pas espéranto.
Alors, cette chanson s'appelle « Dance con mi », ça veut dire « Danse avec moi ». C'est une chanson de Yomo, qui est un peu une star dans les milieux espérantistes et espérantophones. L'espéranto est très lié à l'histoire de Echo, puisque Echo, en espéranto, ça veut dire « c'est parti ». Un peu comme Let's Go, c'est le commencement, le début. Ça parle beaucoup de notre énergie, un peu d'initiative, de tester, d'expérimenter, de créer aussi des choses nouvelles, innovantes. Et voilà, donc une chanson en espéranto pour partager un peu de joie.
C'est amusant parce que je pensais qu'éco était lié plutôt à écologie ou économie.
Alors éco, non. Si. Écho, ça vient aussi en grec ancien de oikos, la maison, qui a donné les mots écologie et économie. Mais écho, c'est aussi du coup un mot en espéranto qui est ma langue maternelle et c'est un symbole fort pour nous d'une langue qui est finalement équitable, qui est neutre parce qu'elle appartient à personne. C'est aussi la langue de tout le monde. Elle est très simple, elle est finalement très low-tech, elle est accessible. La grammaire, ça tient en une page et c'est une langue de tous les peuples, une langue profondément pacifiste, une langue sans frontières finalement.
Eh bien, on écoute ça tout de suite.
Trumpo,
Vous écoutez Portrait d'Asso, notre émission en partenariat avec le comptoir des assos, et aujourd'hui nous vous présentons l'association ECHO. Alors, nous sommes avec Marjolaine Baire, fondatrice de l'association, et nous avons donc déjà parlé de l'historique, nous sommes revenus sur l'association, sa mission principale. J'aimerais qu'on revienne maintenant sur vos actions concrètes, vos projets. Alors, peut-être on peut les énumérer, comme ça on voit les projets que vous avez avant de les détailler.
Alors, en effet, ECHO, c'est une structure qui porte plusieurs projets, mais des projets qui ont en commun des valeurs communes. Et donc, les quatre valeurs de ECHO, ce sont la cohérence, la sobriété, l'autonomisation et la diversité. Donc, ces projets portent des objectifs, des valeurs qui sont communes, mais peuvent en effet se déployer sur le terrain différemment, dans des endroits différents ou avec des actions pratico-pratiques différentes. Donc, Écoloc, le plus vieux projet, était autour du soutien, l'accompagnement au développement de colocations conviviales, écologiques et solidaires. L'OTEC et réfugiés, qui s'appelait initialement l'OTEC for Refugees ou l'OTEC with Refugees en anglais, puisque ça a commencé à l'étranger, a pour objectif de renforcer la résilience des personnes exilées en lien avec la résilience des territoires qui les accueillent. Le nouveau projet qui a commencé cette année, qui dure 2 ans, qui s'appelle l'OTEC Altitude, consiste également à proposer des ateliers, des formations à tout un chacun, comme aussi l'OTEC et réfugiés propose aussi des activités qui sont ouvertes à tout le monde, dont les personnes exilées, mais c'est aussi ouvert à tout le monde, aux habitants des territoires, aux touristes, etc. Et dans l'OTEC Altitude, on est vraiment ancré sur le territoire du Grand Briançonnais, avec un objectif de développer cette démarche l'OTEC sur le territoire. Et c'est un projet qu'on coporte avec Environnement et Solidarité, qui est un autre acteur du Briançonnais et qui est financé par des financements européens leaders. Et puis l'OTEC Loco, qui est le tout dernier né, qui a pour objectif de développer un lieu dédié à la low-tech sur le territoire et qui permettra du coup d'accueillir ECHO. Aujourd'hui, ECHO a une partie de ses locaux au sein des Terrasses Solidaires, qui est un tiers-lieu qu'on a co-créé, co-fondé il y a maintenant 5 ans. Et donc l'OTEC Loco a pour objectif de développer un lieu qui soit vraiment dédié à la low-tech et emblématique et de nos sujets et de nos passions finalement.
Donc 4 projets. Les 4 existent encore aujourd'hui.
Les 4 évoluent. Écoloc, par exemple, voilà, il y a encore parfois des sollicitations, des petites actions qui sont menées, mais ce n'est plus du tout un projet qui est porté avec autant d'énergie que ce que ça a pu être le cas en 2015 ou 2016. Il y a eu tout un mouvement autour des éco-colocations qui s'est développé suite à Écoloc. Donc, on est très content que le projet ait finalement... voilà, il a impulsé quelque chose. Il
continue, a pris son envol.
Voilà, le guide pratique continue à être disponible et des personnes l'utilisent. Mais il n'y a plus forcément besoin, comme il y a 10 ans, de mettre la lumière et de soutenir finalement ce mode d'habitat qui s'est largement développé depuis et qui a même maintenant, à l'échelle locale, sur des métropoles, des collectifs au sein de chaque métropole pour faciliter la mise en lien, créer des nouvelles colocations, etc.
Oui, d'accord.
Donc l'OTEC et réfugiés est passé par 3 antennes géographiques, donc en gros de 2018 à 2021 à Lesbos, depuis 2020 à Marseille et à Briançon. Et puis donc l'OTEC Altitude qui lui a une durée extrêmement très définie puisque ça correspond à un financement de 2025 à 2027 sur 2 ans.
2 ans.
Voilà.
Et donc concrètement, quelles sont vos actions ?
Alors, une des actions qu'on organise de manière très hebdomadaire, plusieurs fois par semaine, ce sont les ateliers low-tech qui sont ouverts à tout le monde, auxquels vous pouvez aussi participer. Ils sont accessibles à prix libre et conscient. But est vraiment de les rendre accessibles. C'est des ateliers pratiques d'apprentissage horizontal entre les participants. On peut apprendre la menuiserie, la réparation vélo, comment est-ce qu'on fabrique un tawashi ou organiser un troc de graines, par exemple. On propose aussi des formations. Donc, l'année prochaine, on propose 5 formations. Une en mai, une formation à la permaculture. En septembre, une formation à l'installation de panneaux photovoltaïques. En novembre, une formation à la fabrication de chauffe-air solaire. Il y a ce volet dont je parlais tout à l'heure d'accompagnement à l'insertion, qui a un gros besoin sur le territoire du Briançonnais, notamment l'insertion professionnelle pour des personnes exilées qui ont envie de s'insérer sur le territoire par le travail et pour qui c'est important de savoir faire un CV, de faire un stage en entreprise, on va parler plutôt d'immersion professionnelle, finalement de développer son réseau professionnel et de s'insérer étape par étape grâce au travail sur le territoire.
Et ça, c'est à destination seulement des personnes en migration ?
Oui, pour l'accompagnement à l'insertion socioprofessionnelle, c'est uniquement pour des personnes qui sont en situation d'exil. Alors que les ateliers, les formations sont vraiment ouvertes à toutes et à tous. Vous pouvez être un habitant du territoire, vous pouvez être de passage sur le territoire, vous pouvez être en situation d'exil. L'objectif est aussi justement de se rencontrer et de se rencontrer parce qu'on bricole ensemble en dépassant les barrières linguistiques, culturelles. Et puis, à ECHO, on prototype, on invente aussi des systèmes techniques qui répondent à des besoins en utilisant, en valorisant les matériaux qu'on trouve localement. Et on partage ensuite ces prototypes, ces technologies, ces techniques en ligne, en open source. Donc, n'importe qui y a accès gratuitement.
Comme des tutos ?
Exactement. Avec des tutoriels, on essaie de les rendre les plus simples possibles, un peu comme des recettes de cuisine, de manière à ce que qui que ce soit puisse chez soi répliquer, fabriquer ses propres objets grâce au tutoriel.
Et donc, pour accéder à tout ça, bon, à part évidemment sur Internet, on vient vous voir aux terrasses en attendant peut-être d'avoir ce nouveau local, c'est ça ?
Oui, alors vous pouvez soit venir nous voir en effet dans les locaux donc des terrasses solidaires au 34 route de Grenoble. Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au 07 83 91 59 52. Vous pouvez aussi nous écrire un email à contact@asso.org. ECHO.org. Et puis, vous pouvez nous trouver en ligne sur le site internet, sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Blue Sky, Mastodon, LinkedIn. Voilà, n'hésitez pas à nous chercher aussi via les réseaux que vous pouvez utiliser.
Comment est-ce qu'on peut vous soutenir ?
Alors, il y a plein de manières de passer à l'action et de contribuer au projet de ECHO. Alors, si vous avez du temps, vous pouvez être bénévole. Il y a plein de manières d'être bénévole. Vous pouvez être bénévole depuis votre canapé pour, par exemple, traduire un tutoriel dans une langue que vous connaissez, par exemple. Ou vous pouvez aussi, si vous y connaissez, imaginons en couture, venir co-animer l'atelier couture du mercredi après-midi. Si vous y connaissez en menuiserie, en électronique, vraiment toutes les compétences, savoir-faire sont les bienvenues. En comptabilité, ce que toutes les associations recherchent. Si vous voulez soutenir l'association sur le plan matériel, on est constamment à la recherche de dons d'objets. Donc, ça peut être des vélos cassés, des téléphones, que ce soit des smartphones, des téléphones à touche, des chargeurs, qu'ils fonctionnent ou qu'ils soient cassés. Ça peut être de l'outillage, de la quincaillerie, de la mercerie, des machines à coudre, des matériaux. Vraiment, on peut facilement trouver à nous soutenir avec aussi des dons si vous faites du rangement dans votre garage ou au fond de vos tiroirs. Et puis, en cette fin d'année, on appelle aussi à la solidarité et à l'engagement citoyen pour nous aider financièrement parce que ECHO dépend beaucoup des dons et de l'engagement citoyen. On a peu de subventions publiques et c'est essentiellement grâce à l'engagement de personnes comme vous qu'on arrive à agir et fonctionner au quotidien. Et je peux rappeler aussi que les dons qui sont faits avant le 31 décembre sont défiscalisés à hauteur de 66% de vos impôts sur le revenu. Donc, n'hésitez pas à faire ce don avant le 31 décembre pour pouvoir bénéficier de cette défiscalisation. Pour donner un exemple, si vous faites un don de 100 euros, en fait, ça ne vous coûte que 33 euros, ce qui est très intéressant pour vous et pour l'association.
Très bien. Donc, on sait maintenant comment vous contacter, comment vous soutenir. On sait ce que vous faites pour venir aux ateliers aussi ou à toutes vos autres actions, évidemment. Peut-être, pour finir, est-ce qu'il y a un projet à venir, une volonté particulière d'un développement ?
On aimerait bien pouvoir développer davantage les formations low-tech. C'est des moments incroyables d'apprentissage, de rencontres, de diffusion de ces savoir-faire à destination de personnes qui sont amateurs ou aussi professionnelles. Et on espère pouvoir proposer de plus en plus de formations sur le territoire du Grand Briançonnais.
Merci Marjolaine Baird, nous arrivons à la fin de ce portrait d'asso. Merci encore d'avoir participé pour présenter l'association ECHO, E-K-O, point d'exclamation, c'est important.
Merci beaucoup.
Merci Marion.
À bientôt.